Écoute voir un podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel.
Bonsoir et bienvenue, vous écoutez cette radio et on est parti pour une heure d'écoute voir. Dan, tu nous rappelles le principe de l'émission, tu fais ça si bien.
C'est vrai que je fais ça bien. Bah écoute, c'est une heure où on va parler de tout ce qui se regarde ou tout ce qui s'écoute sur les différents écrans. C'est vraiment une émission consacrée à l'audiovisuel.
Oh, c'est si bien dit. Et chaque semaine donc, on vous recommande ou pas hein, d'ailleurs quelque chose. Cette semaine pour moi, ça sera un documentaire qui est clairement d'actualité puisque c'est pandémie sur Netflix. Dan, qu'est-ce que toi, tu nous recommandes ?
Moi, je vous recommanderais, on en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière dans les recommandations de l'agenda de la semaine,
oui.
Avec les sorties Netflix, c'est un special, donc c'est un spectacle d'humour. C'était celui de Taylor Tomlinson, Quarter Life Crisis.
Eh bien écoute, on est plutôt alignés parce que j'ai failli faire cette recommandation aussi.
Mais j'ai tellement aimé ça, je l'ai recommandé je crois en vrai à au moins 3 ou 4 personnes autour de moi, donc il fallait que j'en parle dans l'émission.
On a débriefé quelque chose aussi, chacun de notre côté. Cette semaine, c'était encore du contenu d'actualité puisque c'était...
Bah, c'était tout simplement l'émission Temps Présent sur le coronavirus.
Exactement.
Les origines.
Ouh là là. Puis on finira avec l'agenda des sorties Netflix, hein, tout ce qui nous attend pour la semaine à venir. Je pense, Dan, qu'on va passer du temps devant nos écrans. Hein.
Bah c'est le principe même.
Oui, non, mais...
Mais il y a du lourd en plus cette semaine.
Il y a du lourd. Mais d'abord, on se retrouve dans un instant avec tes news. L'actualité de ce que vous regardez et écoutez, c'est les news de Dan et ça commence avec...
Le coronavirus. Oh. On en parlait la semaine dernière, la situation ne s'est pas améliorée, hein, même le contraire. Le virus perturbe les événements mais aussi les sorties, notamment au cinéma. Et la dernière victime en date, c'est le film super attendu de la saga James Bond, No Time to Die. Le film devait sortir au début du mois d'avril et on a appris cette semaine qu'il avait été officiellement repoussé pour le mois de novembre. Donc on change tout et on repousse tout pour Universal et la MGM. Les fans de l'agent 007 devront attendre encore un petit peu.
Il y a des films qu'on va devoir attendre et d'autres qu'on n'attendait plus.
Artemis Fowl, c'est un vieux souvenir de lecture pour certains. Pour d'autres, c'est un film qu'ils attendent depuis maintenant près de 20 ans. Toi, tu vois ce que c'est ?
Pas du tout.
Eh bien, je te raconte un peu l'histoire. L'histoire, elle commence en 2001 quand Miramax achète les droits pour adapter au cinéma les romans d'Ewin Colfer. La production du film sera lancée en 2016 et il devrait sortir en août dernier. Avant que Disney ait été obligé de repousser sa sortie pour des affaires qui sont un peu obscures, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça a été repoussé. Et cette semaine, Disney a publié une bande-annonce dans laquelle elle dévoile que le père d'Artemis Fowl dans le film est interprété par Colin Farrell. Un casting sympathique pour un film d'action qui, perso, risque de me décevoir tellement j'avais aimé les livres. Les livres, c'est une histoire un peu fantastique, de vol à grande échelle, avec de la magie, des nains, des elfes. Enfin, c'est assez fou, vraiment, avec de la technologie beaucoup aussi. Donc, les livres, voilà, ça m'en a mis plein les oreilles. Et quand je regarde la bande-annonce, je reconnais même pas les souvenirs que j'avais du film, du livre. Après, ça date d'il y a quelques années, hein, parce que j'étais quand même ado quand j'avais lu ça. Mais ça m'a plus donné envie de relire les films, de relire les livres que de voir le film, tellement ça avait l'air peu, il y avait peu d'âme. C'est un gros film d'action, quoi.
Comment j'ai pu passer à côté de ça ? Ça me dit vraiment rien du tout.
Bon, les livres sont pas hyper connus, hein. C'était dans la vague. C'était même un peu, je crois, quand Harry Potter était en plein boom. Donc c'était.
Voilà.
Moi, j'ai lu ça parce que c'était le truc de science-fiction qu'il fallait lire après avoir vu Harry Potter. Tu vois, quand on n'avait plus assez, il fallait prendre autre chose.
Ouais.
C'est là que je l'avais lu. Okay. Donc le film Artemis Fowl, sorti prévu le 27 mai prochain, à moins bien sûr que le coronavirus, vous comprenez quoi.
Exactement. Bon, on a parlé cinéma. Parlons maintenant argent, s'il te plaît.
Et oui, c'était l'heure du bilan financier 2019 pour les entreprises cinématographiques. Et c'est sans surprise que le haut du panier, on retrouve Disney et Netflix.
Oh, surprise.
Entre Avengers Endgame, Le Roi Lion et Star Wars, Disney a eu une très grosse année. 11 films qui ont envahi les salles de cinéma. Autant de cartons. Ils ont généré 13 milliards de dollars de revenus pour 3,4 milliards de bénéfices. Ça fait de l'argent, ça fait de la maille. Et ça place Mickey à la première place des boîtes de production de cinéma au monde. À la seconde place, on retrouve Netflix, un peu plus surpris. C'est la première fois qu'ils postent leurs chiffres, donc on se rend compte vraiment de l'importance de la plateforme. Ils ont généré 20,2 milliards de dollars avec 2,8 milliards de bénéfices, donc ils sont pas si loin que ça que Disney. Et on termine le classement avec NBC Universal, Sony et Viacom CBS. Et l'année 2020, elle s'annonce réjouissante, tout simplement avec les annulations dues au coronavirus qui redistribue un petit peu les cartes. Mais surtout aussi l'arrivée des nouvelles plateformes de streaming, Disney Plus pour l'Europe, il y aura aussi Peacock et HBO Max qui vont redistribuer les cartes, puisque tiens donc, toutes les compagnies à qui appartiennent ces plateformes de streaming, c'est celle du top 10, ça tombe bien.
Écoute voir,
Deuxième partie des news de la semaine et on revient maintenant sur les nouvelles productions annoncées par les services de streaming.
Démarrons avec HBO qui prépare une série adaptée des aventures d'Ellie et Joël dans le jeu vidéo Last of Us. Après The Witcher et Resident Evil, reprendre au cinéma ou en série des jeux vidéo, c'est plutôt à la mode et ça fonctionne plutôt bien niveau chiffres. Du coup, HBO a fait appel à Neil Druckmann, le créateur de Tchernobyl, pour adapter le jeu vidéo Last of Us en série. Dans l'univers post-apocalyptique, deux personnages, Ellie et Joël, tentent de survivre à une mystérieuse peste qui sème terreur et désolation. On a l'impression de vivre la Terre, tout simplement, en ce moment avec le coronavirus. Le jeu vidéo était sorti en 2013. Il y aura une nouvelle version et Last of Us 2 qui va sortir dans quelques semaines. Et pour le moment, on n'a pas de date de sortie par contre pour la série qui est encore en phase d'ébauche puisque les acteurs ne sont pas encore officiellement choisis, même si a priori, ils devraient débaucher les acteurs qui avait incarné à l'origine les personnages du jeu pour qu'on s'éloigne pas trop de l'histoire et du rendu originel.
Et Netflix est d'humeur gourmande.
Et apparemment, ils adorent le chocolat, puisqu'ils sont en train de nous préparer un projet ultra secret d'adaptation de Charlie et la chocolaterie en série animée. Donc dessin animé, mais une série. Ah. Ils ont annoncé sur Twitter être en train de travailler sur une adaptation avec Taika Waititi, qui a été oscarisé pour le film Jojo Rabbit cette année. Donc c'est vraiment pas n'importe qui dans le film d'animation. On apprend également que la première série sera une adaptation plutôt libre du roman et la seconde sera une mini-série consacrée à l'histoire des Oompa Loompa, les mystérieux assistants de Willy Wonka. Pas de date de sortie prévue évidemment. Netflix nous promet de revenir très vite vers nous avec plus d'informations.
Dernière grosse news de la semaine, la partie 4 de Casa de Papel arrive.
Et oui, et pour fêter ça, Netflix nous a proposé un teaser des plus explosifs. On en a eu plein la gueule pendant quelques 2 minutes. Le chaos est total avec le professeur qui pense que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo qui ont fait sauter un char d'assaut, Nairobi qui est entre la vie et la mort. Les temps sont durs pour la bande qui sont en train de braquer la Banque d'Espagne. Alors qu'en plus, on découvre un nouvel ennemi dans cette bande-annonce, un ennemi qui a l'air des plus coriaces, il fait bien flipper, ça a l'air d'être un fou furieux. Et vous aurez le plaisir de découvrir tout ça dès le 3 avril prochain sur Netflix. T'as vu la bande-annonce?
Oui.
Elle est tellement violente.
Oui.
On comprend rien.
J'adore.
Ça va trop vite, mais on a hâte du 3 avril du coup. Tu disais, Isaline, tout à l'heure que ta recommandation serait d'actualité.
Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il faut admettre que dans ce cas, le hasard fait bien les choses ou alors ils sont allés un peu trop fort sur la campagne marketing puisque ma recommandation de la semaine, c'est le documentaire Netflix Pandémie. Attention, hypochondriaque, s'abstenir.
The problem is so widespread, the World Health Organization is calling the refusal to vaccinate one of the biggest threats of 2019.
A healthy child has the ability to build up immunity naturally.
I know that what I do is important to my patients, but what am I doing to myself and my family?
Within 1 month, the virus can spread throughout the country. A month after that, widespread throughout the world.
The next pandemic is going to start, and we just don't know where or how, but we know it will.
That poses an existential threat to us as a species.
Ça fait peur. Hein.
Ça fait peur. Hein. Dans ce docu-série de 6 épisodes de 40 à 50 minutes chacun, on nous montre comment on se prépare à combattre la prochaine pandémie mondiale. C'est sorti fin janvier sur Netflix et c'est produit par la plateforme de streaming. Comme
Netflix.
D'habitude, voilà. Alors à travers Pandémie, on apprend notamment que des gens travaillent tout au long de l'année, même quand il n'y a pas du tout de pandémie, pour surveiller les animaux sauvages, vérifier qu'ils ne sont pas porteurs d'un virus, qui pourrait d'ailleurs se transmettre à l'homme, puisque, on le rappelle, c'est comme ça que se sont déclarés les derniers cas d'épidémie des dernières années.
Et c'est même comme ça qu'on pense que s'est déclaré le coronavirus.
Absolument. On nous emmène partout, donc à travers le monde, et on nous rappelle bien que la grippe fait des milliers de morts chaque année. On nous montre les gens qui travaillent sur un vaccin et les difficultés que ça représente. Il faut savoir que la grippe et le coronavirus sont des virus qui mutent. Donc, sitôt que vous avez un vaccin pour une forme du virus, vous pouvez chercher un autre vaccin pour une autre forme. Il y a beaucoup, beaucoup de mutations. Et personnellement, ça m'a fait tout bizarre de me dire que la grippe est, entre guillemets, si dangereuse, hein, parce que dans ma tête, c'est un peu comme un gros rhume et j'assimilais vraiment pas ça du tout à un danger.
Mais c'est pas si dangereux que ça, hein, une grippe. C'est juste dangereux si t'es fragile ou si t'es sensible, genre si t'es vieux, bébé ou que t'as déjà des maladies respiratoires. C'est là où ça peut vraiment être grave. A priori, c'est vraiment un gros rhume. Si t'es en bonne santé, c'est pas plus que ça. Le problème, c'est que tu vas le transmettre plus loin et c'est là où ça devient grave.
C'est vrai, exact. On nous parle aussi d'autres virus comme celui du SRAS et du MERS. Et puis justement, hein, le MERS, syndrome donc respiratoire du Moyen-Orient, et le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, bah, c'est des formes de coronavirus, tout comme le fameux Covid-19 qu'on a découvert en Chine à Wuhan en fin 2019.
Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça, si tu regardes tes bouteilles de désinfectant, il y en a qui tournent sur Internet, genre « Ah là là, cette bouteille a été achetée en 2016, c'est déjà écrit coronavirus ». C'est une vieille maladie, le coronavirus.
Ouais, complètement.
C'est pour ça que, d'ailleurs, dans la presse, ils parlent du nouveau coronavirus. Mm-hmm. C'est celui qui a été découvert en Chine, justement.
Et un peu de culture, est-ce que tu connais la différence entre une épidémie et une pandémie ?
Alors, pour tout te dire, ça fait un moment que genre, je confonds les deux mots dans ma tête.
Comme beaucoup
et ça
de gens.
Fait honnêtement 3 semaines que je me dis, il faut que tu googles ça. Donc, je me réjouis que tu nous racontes.
Eh bien, je suis là. En fait, la différence entre une épidémie et une pandémie, elle est principalement géographique. Une épidémie, elle est en général limitée à une région. Une pandémie, elle est mondiale. Donc okay. Là, on peut parler d'une pandémie. Alors, c'est clairement pas un documentaire très rassurant, hein, parce que comme le dit la voix off qu'on a entendue, avec la grippe, la question, c'est pas de savoir s'il y aura une nouvelle pandémie, mais quand elle aura lieu. Hein. Mais malgré tout ça, ça permet de remettre l'église au milieu du village et de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe au lieu de se faire des films.
Est-ce que c'est ça qui moi m'a flippé même avec la bande-annonce parce que j'ai pas vu la série, c'est qu'ils nous disent on sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu, mais c'est sûr qu'elle aura lieu. Mm-hmm. Et en fait, on est en plein dedans.
Ouais.
C'est ça qui est flippant.
Alors cela étant dit, hein, si vous êtes hypochondriaque, moi je ne vous recommande pas du tout ce documentaire. Il ne faut pas oublier que malgré le sujet du documentaire, ça reste un divertissement si je peux dire. Donc ça doit provoquer des émotions chez les gens.
Okay.
La peur en fait partie. Donc si vous êtes déjà totalement paniqué par ce qui se passe, vous allez certainement y passer, mais ça sera à cause d'une crise cardiaque. Donc on respire hein, et on regarde plutôt un comedy special à la place.
C'est vrai que ça c'est une bonne technique, ça s'appelle Pandémie, tu le recommandes seulement si on a le cœur lourd et pas fragile du tout. Et on trouve ça sur Netflix.
Exact.
Écoute Voir, un podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel.
Il était dans mon agenda des sorties Netflix la semaine dernière et c'est ta recommandation cette semaine.
Ouais, et si tu te souviens bien, j'étais même pas très chaud hein, la semaine dernière quand tu nous présentais les sorties. J'ai dû dire, si je me souviens bien, quelque chose comme « Si j'ai le temps, je regarderai, un truc dans le genre. Et en fait, j'ai eu le temps et j'ai adoré. Je vous parle du special de Taylor Tomlinson. Ça s'appelle « Quarter Life Crisis ».
I am halfway through my 20s and I am done with this. Oh my God, I'm sick of my 20s. You have no intuition, no instincts. That's why you're thin in your 20s. You don't have a gut to listen to yet. There's no mystic bad feeling under your ribs going, hey, maybe don't date a DJ again.
Elle a 25 ans, elle est en pleine crise de quart de vie, trop vieille pour faire la fête, trop jeune pour se ranger, définitivement trop jeune pour se marier, ce qu'elle a bien failli faire d'ailleurs, elle le raconte dans ce special. Pour présenter rapidement Taylor, c'est une stand-upeuse qui a été finaliste de l'émission Last Comedy Standing. C'est globalement la France a un incroyable talent, mais pour l'humour et aux USA. Mais elle a commencé l'humour à l'âge de 16 ans, lors d'un spectacle d'humour dans son église. Parce que oui, apparemment c'est un truc qui existe, les spectacles d'humour dans les églises, en tout cas aux États-Unis. Elle est devenue la plus jeune humoriste à travailler dans les émissions de Jimmy Fallon, Conan O'Brien et Comedy Central. Donc c'est vraiment des poids lourds de l'humour. Autant vous dire que même si elle est très jeune, elle a beaucoup d'expérience et ça s'entend. Elle a une assurance dans comment elle présente les choses, comment elle fait ses vannes. Elle a surtout un côté très frais et c'est ça qu'on adore, c'est que qu'elle a plus ou moins notre âge en fait. Mm-hmm. Moi je suis plutôt dans le plus que dans le moins, mais voilà, on est dans la trentaine aussi. Et elle a les mêmes angoisses que nous, elle vit la même chose par rapport aux vieux qui nous entourent et qui parfois même nous oppressent un peu avec leur bienveillance ou leurs idées reçues. Par exemple sur le fait que les cauchemars d'adultes, c'est bien pire que les cauchemars d'enfants.
When you have a nightmare as a kid, you can run somewhere for comfort. You can go to your parents like, I had a dream that there was a werewolf and a vampire and my hands were snakes. And they're like, you're an idiot. Go back to sleep. None of that's real. Why did we have you? And you're like, okay, awesome. As an adult, you wake up from nightmares like, I had a dream that there was an earthquake and I got cancer and you cheated on me. And everybody's like, oh yeah, that'll probably happen. They're not even dreams. They're just premonitions.
Elle est tellement américaine, elle est tellement drôle. J'ai adoré son special que je recommande à absolument tout le monde et que je me réjouis de voir plus de trucs où elle est à l'intérieur. Hein. J'ai envie de voir ses futurs spectacles. Et en attendant, donc, je vous invite à regarder Quarter Life Crisis. C'est Taylor Tomlinson et c'est sur Netflix. Toi, tu l'as vu aussi et t'as aimé.
J'ai regardé aussi et j'ai adoré, vraiment.
Donc double recommandation, c'était presque un débrief, mais c'est juste excellent, il n'y a rien à redire et on vous le recommande très fort. Taylor Tomlinson. Pour le débrief, cette semaine, on a décidé de faire les choses un petit peu différemment parce qu'on a regardé le dernier reportage de l'émission Temps Présent de la télévision suisse romande. Quelques mots pour présenter Temps Présent s'il le fallait. C'est un magazine d'information produit par la RTS depuis 1969. C'est l'un des plus anciens magazines d'information d'Europe. Véritable référence du reportage, l'émission est diffusée chaque semaine avec un sujet différent à chaque fois. Il a même reçu le prix Jean Dumur en 2009 qui récompense le courage journalistique et l'émission est aujourd'hui présentée par Jean-Philippe Seppi. On a grandi avec ce générique. Un reportage du 5 mars s'intéressait aux origines du coronavirus, réalisé par Sean Nichols. On y apprend comment ce nouveau coronavirus a été découvert, comment les autorités chinoises ont géré, ou plutôt pas géré, l'arrivée de cette épidémie. Isaline, qu'en as-tu pensé ?
Alors, de manière générale, sur l'émission, j'ai un coup de gueule sur le style. Je trouve que c'est de plus en plus, il me semble pas que c'était comme ça à l'époque, accès, enquête impossible, zone interdite. Genre le générique, c'était le même à l'époque ?
Moi, c'était pas la sûre. Même musique, il est juste modernisé un petit peu plus électro. Mais...
Ouais. Bah, moi ça me tend personnellement, hein. Je trouve que ça sent le drame à 8 km.
Ah bah c'est clair, mais après ça dépend aussi, alors pour le générique c'est pas le cas, mais ça dépend du documentaire qui est réalisé, des fois c'est des productions maison, des fois c'est des productions suisses. Là typiquement c'est un reportage qui a été diffusé mais qui a été acheté, donc c'est pas quelque chose maison.
Parce que là, entre le générique qui fait hyper dramatique, ça fait les cordiers jugés flics. Voilà. Et puis après, t'as le mec qui arrive. Bonsoir. Ce soir, dans l'actualité...
En fait, tu regardes jamais être en présent, parce que c'est comme ça vraiment depuis 40 ans.
Hein. Bah, je sais pas, peut-être que je le vois pas le début, alors je prends ça en cours de route. Après, on va quand même rester sur une note un peu positive. Ouais. Sur le contenu de cette émission-là, donc, je dis bravo. Moi, personnellement, j'ai trouvé hyper intéressant. J'avais absolument pas vu d'image de ce qui se passait en Chine et franchement avoir une vision de l'intérieur, je trouve que ça, ben, c'est ce qui devrait être le vrai journalisme.
Ouais. Surtout que moi j'ai l'impression que au début de l'épidémie encore à l'époque quand c'était qu'en Chine, on s'en fichait un peu, tu vois, c'était trop loin, on s'occupait pas.
Exactement.
De ça, c'était Noël en plus, donc il y avait vraiment autre chose dans nos vies. Et maintenant que c'est très présent dans nos vies et que c'est chez nous quoi, on s'y attarde beaucoup plus, on essaye de suivre l'histoire, mais il nous manquait un peu les prémices. Donc c'était une bonne manière de raccrocher les wagons, de se rendre compte qu'en fait là-bas ça a été le monstre bordel. Et d'ailleurs c'est toujours le bordel, c'est ça qui est impressionnant et qui fait peur.
Mais tu vois, le plus marrant dans tout ça, c'est que la moitié des gens qu'on voit dans le documentaire, bah, c'est pas des journalistes. Hein, par exemple, comment il s'appelle, Tim McLean. Mm-hmm. C'est monsieur tout le monde. Pour preuve, je l'ai ajouté sur Instagram parce que je me suis dit c'est intéressant. Bah, il produit du contenu qui est intéressant. Entre
guillemets. Maintenant, il vend du thé, minceur.
Non, mais il prend des risques. Il faut rappeler que c'est la Chine, que
c'est
tout
ça,
est
c'est
contrôlé.
Pour ça que...
Il prend des risques. Et le mec est tellement monsieur tout le monde que genre 5 minutes après avoir ajouté ce gars sur Instagram, ouais, il m'a demandé en ami. Okay. Je me disais, mais c'est surréaliste.
Bah, je pense qu'il se fait chier aussi. Il est chez lui,
c'est
enfermé.
C'est pas possible. Hein.
Mais tu dis, il n'y a pas de journaliste. C'est justement pour ça. C'est parce que les journalistes n'ont pas le droit de travailler en Chine. Et surtout, sortir des images comme ça qui montrent des cadavres dans la rue parce qu'ils n'arrivent plus à suivre. Ça, tu ne peux pas faire des vrais reportages qui sont validés par le gouvernement. Donc, c'est forcément des fichiers vidéo qui fuitent, qui vont en direction de l'Angleterre. C'est traité par la BBC. Ça fait des reportages. Et après, c'est diffusé dans le monde.
Mais je crois que c'est justement parce qu'il n'y avait pas de vrais journalistes ou très peu que ce documentaire m'a plu. Si je peux dire ça compte tenu quand même du sujet, hein. Moi, faut rappeler que je sais pas, moi je suis pas journaliste, hein. Je vis ma vie comme Madame Trucmuche à l'autre bout de la planète. Et ce qui m'intéresse, c'est justement ce que cette Madame Trucmuche elle vit, comment est-ce qu'elle le perçoit, pas ce qu'un journaliste va essayer de me faire avaler.
Ok, ouais, je suis pas de ton avis pour ça. Je le trouvais intéressant parce qu'effectivement, vu les conditions, ils peuvent pas faire autrement pour amener des images et des témoignages, mais. Le fait qu'il n'y ait pas de journaliste, ça ne m'a pas marqué.
Moi,
quoi, parce que
même
il y a une recherche journalistique, il y a une démarche, il y a une écriture, il y a un style. Ce n'est pas un truc qui a été fait par monsieur, madame, tout le monde à l'autre bout du monde.
Oui, mais je n'ai pas cette sensation d'avoir été manipulé.
Mais les journalistes, ils ne manipulent pas.
Tu ne regardes jamais le
téléphone sur TF1. Mais ce n'est pas de la manipulation, c'est de la mise en forme. Et puis
voilà,
après,
c'est ça. Et c'est ça qui me dérange aujourd'hui dans le journalisme.
Ouais, après, il y a pas aussi. Il y a un truc, on est habitué à regarder les les magazines d'actualité français, ou c'est quelque part dans le canton de Vaud, nous retrouvons Isaline qui a été manger une glace. Tu vois, c'est très formaté, ça c'est de l'info machin. Du coup, dès que ça sort de ce cadre, on a l'impression que c'est nouveau. Et comme d'un autre côté, soit on bouffe l'actu française qui est dans ce style-là, ou alors américaine via Netflix avec les documentaires, ça fait bizarre d'avoir un appel d'air d'un truc britannique ou tu vois qui est différent. Donc c'est là où je pense que tu vois le souffle nouveau, mais c'est pas une question de journalisme ou pas journalisme à mon avis.
Il y avait quand même un truc qui était pas mal aussi, c'est qu'à la fin, bon ça c'est assez commun dans l'émission je crois, mais c'est qu'ils avaient un spécialiste qui vient. Ouais. Et qui remet un petit peu les choses au clair.
Ouais, c'était une interview avec Nicolas Zufferet, sinologue à l'Université de Genève. Donc lui, il étudie tout ce qui est chinois, en fait, notamment son gouvernement. Et là où c'était intéressant, c'est que le sujet est tellement d'actualité qu'il fallait raccrocher quelque chose avec quelque chose de direct et surtout sur comment le gouvernement gère ce genre de cas et qu'est-ce qui arrive aux gens qui vont essayer de communiquer. Typiquement, le premier médecin qui a traité et qui est mort du coronavirus... lui, il a essayé d'avertir tout le monde, mais ça n'a pas marché. Il a fait son travail de médecin, c'est-à-dire qu'il s'est mis avec d'autres médecins pour leur dire « Voilà ce que je suis en train de voir, qu'est-ce que vous voyez, vous ?» Et ça a été interdit par le gouvernement chinois. Et ils ont rappelé qu'il y a des gens qui disparaissent tout simplement parce qu'ils essayent de mettre en place ce genre de choses. Donc là, c'est super grave. Mais pour terminer sur ce débrief, comme tu disais tout à l'heure avec ta recommandation pour le documentaire Pandémie, c'est quelque chose, si vous êtes stressé par le coronavirus parce que vous avez l'impression que vous allez mourir ou que vos parents vont mourir, faut pas regarder ça parce que vraiment, en Chine, c'est extrême. Ils sont vraiment dans la pandémie maximum. Ils n'arrivent pas à suivre. Il y a des médecins qui se suicident parce qu'ils travaillent trop. Ils doivent travailler, je sais pas, 48, 58 heures par série, session. Et du coup, ils sont vraiment à bout. Il y a des gens qui meurent dans la rue, c'est vrai. Il y a des gens qui sont enfermés chez eux parce que le gouvernement ne sait pas traiter. Tu vois, chez nous, on interdit les manifestations. Enfin, on essaye d'aller petit à petit. En Chine, c'est genre, OK, il y a un souci, on ferme tout. Vous êtes enfermés chez vous. On vient de prendre ta température à 4 heures du matin. Tu as de la fièvre, ils te foutent dans un camion et tu disparais.
Et puis le con, moi, ce qui m'a choqué, c'est quand ils vont pour souder les portes. Genre, vous êtes malade, on sait pas quoi faire avec vous, donc on vous enferme et puis peut-être vous crevez, peut-être
que
vous
soignez. Puis le fait qu'ils vident les hôpitaux avec les gens qui ont des autres maladies, je sais plus ce que c'était comme maladie.
J'ai plus. Mais ouais, effectivement.
Ils vident les hôpitaux pour pouvoir mettre des gens qui sont malades du coronavirus parce qu'ils savent pas où les foutre. C'était des gens... qui avaient le cancer en phase terminale. Puis ils leur disent, allez mourir chez vous, tu vois.
Oui.
Donc, ce genre de truc, c'est juste, faut imaginer, c'est un autre pays, c'est une autre culture, ils sont en panique, ils savent pas traiter les choses, ils vont à la va-vite, ils prennent des mauvaises décisions. Donc, si vous êtes stressé sur comment est-ce qu'on vit actuellement à Lausanne ou en Suisse, il faut absolument pas regarder ce reportage, vous allez vraiment partir en bad. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas vous recommander si c'est le cas. Si vous êtes un peu plus en retrait dans l'analyse des choses, vous pouvez le regarder, ça sera très intéressant, vous allez apprendre des choses.
Tristement, ça dédramatise ce que nous, on vit.
Oui, ouais, c'est ça. Après, ils sont dans un stade beaucoup plus avancé. Avec des... Il y a eu de la mauvaise gestion dès le début.
Voilà, ce qui ne veut pas dire que nous, on en arrivera là non plus. Hein. Faut quand même...
On l'espère. Puis en attendant, on rappelle les règles de base. En fait, c'est les règles de l'hygiène de base. C'est vraiment éviter les contacts qui sont inutiles. Vous lavez les mains. Il n'y a pas besoin de se laver les mains avec du désinfectant. Le savon, ça fait la même chose. C'est juste que le désinfectant, ça désinfecte, donc ça va tuer les microbes. Le savon, ça bouge les microbes et ça va les déplacer dans les tuyaux. Donc ça fait la même chose. Il n'y a pas besoin de se laver les mains au savon et au désinfectant, c'est l'un ou l'autre. Le désinfectant, ça va plus vite. Donc, il faudrait réserver et dans l'optique de surtout pas tout utiliser, tu vois, toutes tes réserves. Tu te désinfectes les mains. Quand t'as pas de robinet, si t'as un robinet, tu te laves les mains avec du savon. Et puis,
restez
te moucher.
Restez chez vous, surtout si vous avez des symptômes.
Si vous êtes malade et que vous avez de la fièvre, oui, ne prenez pas de risque. Restez chez vous, allez pas faire le con au travail, on en connaît. Et puis, toussez dans les bras. Ne pas tousser sur les mains, éviter de se mettre les mains au visage, enfin les trucs de base, et puis voilà, et puis on verra bien comment ça avance. Dans tous les cas, si vous êtes un peu, comme on le répète encore une fois, si vous êtes un peu détaché de cette affaire, regardez le reportage, c'est super intéressant. C'est donc l'émission Temps Présent avec Jean-Philippe Sépi. C'était l'émission du 5 mars dernier qu'on vous recommande donc de regarder.
Écoute voir.
Chaque semaine, on note dans notre agenda les choses qui vont sortir sur Netflix et c'est Isaline qui nous donne cet agenda.
Ben, vous êtes un anticapitaliste, mercredi va vous plaire puisque sort la saison 2 de Dirty Money, le documentaire qui dénonce les malversations des entreprises.
They knew it was happening. They did nothing about it.
There are certain people in our global community who think they are above all laws.
It's all political.
It is abundantly clear that Kushner Companies made the lives of its tenants a living hell. No owner is above the law, not even the family of the President of the United States.
This is a tier one predator.
Ça m'a vraiment l'air d'être le documentaire qui te donne envie de faire une grosse rébellion, tu sais.
Ouais, ça va en tout cas te révolter regarder ça.
Alors toujours mercredi, c'est un film de 2016 avec Marion Cotillard et Brad Pitt qui débarque au catalogue Netflix. Ça s'appelle Alliés. Pas de bande-annonce pour cette sortie, il faut croire qu'acheter le film a déjà coûté assez cher à Netflix.
Mais ils font souvent ça en fait, sur les vieux films,
des films,
ils s'en
mettent
pas.
Bah ouais, je pense que ça leur coûte vraiment trop cher. Alors en quelques mots, voilà de quoi ça nous parle. On est en 1942 à Casablanca, en pleine Seconde Guerre mondiale. Brad Pitt joue un espion canadien du SOE, Max Vatan, et Marion Cotillard, une espionne française, Marianne Beauséjour.
Oh, Beauséjour. C'est vraiment cliché. Un Américain qui s'est dit, attends, vraiment. Un nom français, Beauséjour.
Vraiment. Alors pour leur mission, ils forment un faux couple, mais après quelques jours, les faux sentiments deviennent réels. Une fois la mission accomplie, ils se marient, ont un enfant ensemble, puis un jour, l'un des supérieurs de Max l'informe qu'il a des soupçons, et qu'il y a des soupçons qui planent sur sa femme, donc Marion Cotillard. Marianne est accusée d'être un agent dormant travaillant pour les nazis, et convaincue que les services de renseignement se trompent, Max va tout faire pour tenter de la disculper.
Ok, c'est compliqué, mais c'est le typique... C'est l'homme qui va sauver la jeune demoiselle en détresse.
Brad Pitt, Marion Cotillard.
Ah oui, j'y pense. Il n'y a pas de potentiel.
Oh, puis tu sais, on dit souvent que les comédies spéciales, c'est le mardi.
Normalement, oui, c'est ça.
Exactement. Un jeudi, c'est la première partie du spectacle Hexagone de l'humoriste français Fary que Netflix nous offre. Et ça me fait plaisir.
Il y a eu une polémique avec Christine Angot. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Vous avez vu ça? C'est Christine Angot dans On n'est pas couché, qui à un moment donné a dit... que le but de l'esclavage, c'était que les esclaves soient en bonne santé. Et dans la caméra, comme ça, dans la caméra, sans prompteur, en impro, elle a senti le public est chaud. Elle s'est dit, c'est le moment, faut y aller.
Ça, je me réjouis parce qu'il est vraiment très bon.
Je l'adore, il est incroyable.
Moi, j'adore comment il arrive à faire genre, il a pas de texte et il est en train d'improviser, il te discute d'un truc.
Ouais.
Ah tiens, j'ai vu ça. Et puis, il réagit avec le public, il est vraiment très bon. Et l'image, en fait, c'est un maître de la communication. L'image, elle sera superbe. Je me réjouis vraiment de le voir.
Puis ça, en deux parties. Alors ça, j'ai pas trop compris. Est-ce que le spectacle est trop long pour être en une seule partie ?
J'ai pas du tout suivi en fait l'histoire de ce spectacle Hexagone, donc on va découvrir ça jeudi, bah, t'as dit.
Jeudi, oui, tu as raison, jeudi. Et ça y est, hein, tu le disais tout à l'heure. Ah non, tu le disais pas du tout, tu me parlais de Casa de Papel, mais je suis beaucoup trop enthousiaste avec les sorties Netflix en ce moment. On est à J-4 avant la sortie de la saison 3 d'Elite. Est-ce qu'il faut encore présenter cette série, hein ? Un groupe de gosses de riches, trois gosses pas riches qui intègrent leur école. Et là, c'est le drame. Hein. Une des étudiantes est retrouvée morte et l'assassin est l'un de ses camarades. Mais lequel ?
Ah bon, on sait pas.
Bah ça, c'était dans la saison 1. Et pour la saison 3 qui sort vendredi, on nous réserve plein de surprises.
Je sais que je pourrais pas réparer tout le mal que j'ai fait. Un jour ou l'autre. Tu crois que tu pourras me pardonner ?
Compte pas là-dessus.
Je suis la seule de ton côté.
Je sais que ce meurtrier aura ce qu'il mérite.
Carla, je veux pas te perdre. Je t'aime.
Je veux seulement qu'on laisse tout ça derrière nous.
J'ai exactement ce qu'il te faut.
Avec toi, tout est facile.
Où est-ce que ça nous laisse?
Tu sais, on n'a pas toute la vie devant nous.
Personne ne me prend pour une conne, Nadia.
Bonne défense.
J'ai hâte.
Moi, j'ai très hâte aussi, mais après, et toujours avec ces séries, et notamment les séries espagnoles, je sais pas pourquoi ça me fait ça, ou alors c'est parce qu'elles sont toutes sorties en même temps, j'ai peur que ce soit de nouveau la saison de trop.
Non!
Je sais pas, j'ai peur à chaque fois.
Non, et alors,
en plus, là, dans la bande-annonce, on a l'impression qu'il y a un nouveau meurtre et
bah
tout
ouais,
ça.
Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, ça, vous l'entendez pas à la radio, mais regardez la bande-annonce, mon Dieu!
Mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond!
Oui, mais enfin...
C'est
oui.
Les élèves, ils ont tué quelqu'un et il y a forcément quelqu'un tout le long, t'as l'impression que c'est lui qui l'a tué.
J'ai beau les adorer, mais ça reste des séries espagnoles. Et les séries espagnoles, c'est prendre une histoire et la tirer en long pendant des années.
Ouais, ben voilà, c'est ça, ça me fait peur. Ça me fait peur, j'ai peur. Je suis inquiet, Isaline.
Il y en a qui ont peur du coronavirus, toi t'as peur de la saison 3 pour Netflix. Chacun ses problèmes. Hein. Mais justement, si on doit passer le week-end en quarantaine, sait-on jamais, j'ai quelque chose qui pourrait vous faire rire et vous instruire en même temps. Ça s'appelle 100 Humans, les questions de la vie ont trouvé leurs réponses. Et la saison 1 arrive vendredi.
That is what this show is all about.
This is 100 Humans.
Women have menstrual cycles, but what about men? Is there a menstrual cycle?
There is not.
Maybe. We don't know yet.
You'll see that there is not.
C'est assez simple, hein. Vous prenez 100 personnes, vous leur posez la même question ou leur faites passer le même test. Et on en tire un pourcentage.
Ça a l'air super bien fait. La bande-annonce, ouais, elle est vraiment très sympa. Elle était dure à retranscrire à l'audio, donc j'ai pris qu'un tout petit extrait. Mais c'est vraiment, ils ont un groupe de 100 personnes complètement différentes avec des t-shirts écrits humain numéro 1, humain ouais, numéro 2. Et ils leur font faire des exercices pour prouver que, par exemple, on a besoin du petit doigt, de la main, des choses mm-hmm, comme ça, débiles. Et ça a l'air très intéressant là aussi.
Mm-hmm. Et ça, alors,
c'est un peu comme les Mythbusters.
Oui, exact.
Mais sur les humains, quoi.
Est-ce que les trois scientifiques sont des vrais scientifiques?
Pas du tout,
allez donc savoir, mais en tout cas, ils sont très drôles.
C'est, ouais, je pense que c'est des présentateurs, mais ça n'empêche pas que c'est le test qui fait la science. Mm-hmm. C'est le fait de mettre 100 personnes à faire la même chose. Ouais, je sais.
Qui fait la science.
Non, c'est fantastique. En tout cas, il y a du lourd cette semaine.
T'as vu, je t'ai dit qu'on allait passer notre semaine devant la TV.
C'est assez énorme. Toi, tu retiens quoi de toutes ces sorties?
Bah, c'est un peu le problème, c'est que j'ai envie de regarder tout. Mais très clairement, Elite.
Ok.
Oh, Fari. Oh oui. Et après, on verra ce que j'ai le temps de regarder d'autres. Mais en tout cas, Fari et Elite, de sûr.
La même. Elite, Fari. Et ensuite, si j'ai le temps, les trucs des sans humains, là, ça a l'air super sympa. Sans humains.
Sans...
Je sais pas, moi, les liaisons.
100 humans.
Déjà, je sais pas écrire. Alors là, 100 humans, ouais, c'est mieux. Donc, on va regarder ça et on vous racontera comment on a trouvé ça la semaine prochaine. C'est ce que je propose. On termine cette émission dans un très court instant.
Et oui, monsieur. Allez. Écoute, voir touche à sa fin, c'était l'émission 20. On aurait presque pu faire un gâteau.
C'est vrai qu'on aurait pu, mais en même temps, on aurait dû se battre si on faisait un gâteau au chocolat ou à la fraise.
Ouais, c'est vrai.
Toi, t'aurais pris quoi?
Fraise.
Ah, ben non, on aurait aussi serait pas battu. On aurait dû faire un gâteau.
Et
alors,
voilà, tu vois. En tout cas, merci Dan d'avoir fait cette émission avec moi. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine.
Je me réjouis aussi de te retrouver la semaine prochaine avec toutes ces sorties qui vont sortir cette semaine-là sur Netflix. Ça va être du lourd.
On sera peut-être un peu fatigué parce qu'on aura beaucoup regardé la TV.
On n'aura pas dormi. C'est sûr qu'il va falloir caser tout ça et ça va être difficile. Mais dans tous les cas, on va le faire et on se retrouvera la semaine prochaine en forme.
Oui, monsieur. En tout cas, en attendant, on remercie aussi Tim à la programmation et Antoine à la production. On vous fait des bisous et on vous souhaite une bonne semaine.
Ciao.
Écoute Voir, un podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel.